Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Alors ça fait plusieurs fois que vous me voyez avec une doudoune et un bonnet. Le bonnet je ne l'ai pas encore sur la tête. En faisant ces vidéos du matin et à chaque fois vous me dites oui mais t'as pas le chauffage. Alors oui j'ai le chauffage. D'habitude je tourne en bas dans le sous-sol où il fait pas toujours très chaud. Et puis c'est aussi pour changer un peu du t-shirt. Et puis là en fait je suis carrément dehors. Donc j'ai été filmé carrément dehors. Donc j'ai une vraie doudoune. C'est justifié parce que ce matin il fait froid. Mais comme il fait encore soleil, puis qu'on sait pas combien de temps ça va durer, aujourd'hui je me suis dit je sors et je justifie ma doudoune ce matin. Donc les marchés financiers, eh bien on va parler finance encore une fois. Et on est un peu dans une période vraiment troublée. Il y a pas mal de nuages noirs qui s'amoncellent dans le ciel. Et finalement le marché résiste relativement bien, mais on peut quand même se poser quelques questions parce que il y a 2-3 doutes qui planent et Monsieur Powell l'a clairement exprimé quand même un tout petit peu hier. Donc oui, hier, Monsieur Powell a parlé encore une fois, il va encore parler aujourd'hui, hein, donc visiblement c'est un peu la semaine Powell, on a commencé avec la semaine Lagarde, et maintenant on continue avec la semaine Powell, où tout le monde va venir donner son avis, et Monsieur Powell continue à donner son avis, et au dernier commentaire, il est extrêmement frustré par le comportement de l'inflation, et il pense même que l'inflation va continuer encore en 2022. Donc du coup, on a un peu oublié ce concept d'inflation transitoire. Avant, on nous disait « Ouais, l'inflation transitoire, ça ne durera pas très longtemps, puis après, bam, on va repartir dans un environnement normal. » Eh bien non, on est en train quand même de partir dans quelque chose d'un tout petit peu plus durable. Et donc, en fait, la grande question que tout le monde se pose, c'est que transitoire, ça veut dire quoi? C'est transitoire 3 mois ou transitoire 3 ans? Parce que si c'est 3 ans, ça ne va pas être tout à fait pareil au niveau de la performance du marché, de l'interprétation surtout que les investisseurs vont en faire. Donc aujourd'hui, on a non seulement la problématique de Monsieur Powell, de son inflation. Donc on voit quand même venir, mais gros comme une maison, le tapering pour le mois de novembre. Ensuite, on est en train de nous dire, à l'époque, on nous disait « Ouais, les taux, c'est plutôt pour 2023. » Là, c'est quand même plutôt pour 2022. Donc, cette inflation, elle n'est pas complètement transitoire. Hein. Puis après, si on regarde un tout petit peu plus loin, on a la problématique des chaînes de production. On a les problématiques de ralentissement de la croissance en Chine. La problématique du fait qu'il n'y a pas un nombre suffisant de bateaux pour faire de l'exportation. Le fait qu'il y ait un power crunch. Maintenant, on a déjà parlé de ça en début de semaine. Les Chinois, ils ont de moins en moins d'électricité, de moins en moins d'énergie. Il y a certaines provinces, ils ont dû leur couper l'électricité complètement. Et donc vous avez des provinces chinoises qui n'ont plus d'électricité, des usines qui ne peuvent plus produire, et s'ils peuvent plus produire, et ben après il y a les boîtes qui ont besoin des produits, type ben là on parle beaucoup d'Apple et de Tesla, mais si tout d'un coup ben, on vous envoie plus les produits depuis la Chine, d'abord parce qu'il n'y a plus d'électricité pour les fabriquer, mais ensuite il n'y a plus de bateaux pour les transporter, et en plus il n'y a plus d'ouvriers dans les ports pour mettre dans les containers, puisque de toute façon ils sont tous malades, ils ont tous le Covid, et on est tous dans une espèce de paranoïa globale de ce côté-là. Donc du coup, on est dans une situation vachement critique, hein, et parce que ces problèmes d'approvisionnement, cette hausse des matières premières, cette hausse des produits de consommation, eh bien, ils se répercutent quand même à un moment donné sur l'inflation. Donc, ça va devenir un tout petit peu problématique. Pour l'instant, on les met un peu de côté, et puis on espère que ça va passer, mais quand on fait la liste de tout ça, moi, je suis vachement inquiet parce que cette émission s'appelle Morning Bull. C'est pas exclu qu'un jour, je doive quand même switcher le nom parce que là, on est en train de s'inquiéter. Et je vous assure, moi, je suis bullish depuis 30 ans. Et là, le matin, quand je regarde les news, je me dis, il y a un moment donné, c'est pas possible. On va aller droit dans le mur. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, pour l'instant, les marchés, ils tiennent, mais c'est pas simple non plus. Mais quand on met la cumule, quand on fait le cumul finalement des mauvaises nouvelles, eh bien on peut quand même se poser des questions et se demander mais combien de temps ça va durer et combien de temps on va continuer à se dire que tout va bien. De l'autre côté, n'oublions pas quand même qu'on a le plafond de la dette qui arrive à toute vitesse. Monsieur Biden a annulé des voyages d'affaires, des voyages politiques, parce qu'il faut gérer le problème de la dette. Aujourd'hui, les républicains ne veulent pas faire d'efforts, les démocrates ne savent pas comment faire, ils ne veulent pas baisser non plus le pantalon trop vite et puis tout accepter vis-à-vis des républicains. Mais si on a en plus de ce problème de la dette, enfin de plafond de la dette qui ne se résout pas, et que vous avez les gouvernements américains qui partent en défaut, mais mes amis, le mois d'octobre 2021 sera bien pire que tous les mois d'octobre boursiers du passé. Et c'est pas peu dire. Donc du coup, il y a quand même un stress global, général, qui aurait tendance à vouloir pousser un petit peu le marché dans le côté bearish. Je suis super angoissé parce que je suis en train de me regarder dans la caméra, en train de vous raconter des trucs super berriches et vraiment, ça m'inquiète parce que c'est pas mon style. Mais pourtant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont étranges en ce moment et pas mal de trucs qui sont en train de bloquer. Et moi, je suis quand même très, très, très dérangé par ce côté frustration de la durée de l'inflation transitoire de Monsieur Powell. On voit clairement que il y va à tâtons. Alors, et si lui, il y va à tâtons, autant vous dire que nous, on est complètement largués derrière parce qu'on n'a juste pas le dixième des informations que lui, il a de l'autre côté. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a eu hier des commentaires qui étaient plus ou moins méfiants de la part de Monsieur Powell, en tout cas pas très convaincants ou pas très convaincus de ce qui va se passer. On a un énorme problème de ralentissement économique qui est en train de se pointer en Chine, et puis on fait un peu comme si ça se passait pas vraiment chez nous, donc ça pose pas réellement de problème. Mais quand vous regardez tout ça mis bout à bout, ça me fait un tout petit peu peur quand même. Donc, plutôt méfiant. Hier, le marché a tenu, les Européens ont bien rebondi. On sent qu'on veut encore un petit peu y aller. Les nouvelles sont relativement bonnes en Europe. On nous dit les chiffres sont pas trop mauvais, la consommation est pas trop mauvaise. Mais à un moment donné, ça risque quand même un tout petit peu de bugger. Aujourd'hui, on va voir les jobless claims aux États-Unis. On va voir un peu comment ça tourne de ce côté-là. Demain, c'est le 1er octobre. Donc là, on est en train de boucler un mois de septembre de merde, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Quand vous regardez un peu les performances sur les indices américains, c'est moins 5% sur le Nasdaq, moins 3% sur le S&P. On voit que les gens sont quand même en train de vendre un petit peu la croissance pour se planquer un petit peu dans tout ce qui est value. On se retrouve tout soudainement, on trouve que le côté dividende, c'est pas si mal. Et puis, on est vraiment, vraiment stressé par tout ce qui bouge au niveau des rendements. Vous savez, le rendement du 10 ans, quand il fait 1,35, 1,56, c'est la panique totale. On a déjà vu ça il y a quelques temps. C'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Mais là, on nous le refait. Et quand on nous fait ces coups sur le rendement du 10 ans, c'est toujours intéressant parce que si vous regardez un petit peu, si on prend juste un tout petit peu de recul, je reviens quand même face à vous, mais si on prend juste un peu de recul, on se rend compte de quoi ? On se rend compte finalement qu'on ne parle jamais vraiment du rendement du 10 ans. On en parle un petit peu, mais sans trop se prendre la tête. Et puis tout d'un coup, vous avez le rendement qui passe de 1,30 à 1,50. Et là, tout d'un coup, ça devient la grosse préoccupation du moment. Et les gens ne voient plus que ça. Le rendement du 10 ans, le rendement du 10 ans, le rendement du 10 ans. Ça devient un tout petit peu fatigant, mais c'est comme ça que ça marche. Alors pour l'instant, on est très concentré là-dessus. Comme hier, le rendement du 10 ans n'a pas bougé, ni dans un sens ni dans l'autre, puis qu'on a déjà plus ou moins digéré un rendement du 10 ans à 1,56, on se dit « Ok, ça va ». Mais la problématique, elle est toujours là. Et l'inflation qui revient, et la peur de l'inflation, et la peur du tapering, et la peur de la hausse des taux. On a quand même pas mal de choses qui sont un tout petit peu dérangeantes pour l'instant. Et puis à côté de ça, vous regardez quand même d'autres effets un petit peu pervers. Alors l'or, tout le monde s'en fout, hein. L'or, ça n'intéresse plus personne, ça fait que de baisser, c'est même plus une valeur refuge, on sait même pas à quoi ça sert. D'ailleurs, c'est vraiment un truc qui est devenu complètement séparé du marché, il n'y a plus cette corrélation marché va mal, l'or qui monte, non, l'or il baisse tout le temps, pour l'instant c'est un grand standard. Et puis de côté, vous avez le pétrole. Le pétrole, il a une résistance technique à 76,50. Il faut vraiment qu'on arrive à passer en dessus des 76,50 sur le baril. Et à partir de là, on pourra commencer à dire ça va bien. Ça va bien, mais tout le monde est chaud bouillant sur le pétrole. Hein. Tout le monde a augmenté ses targets, 80, 90, 100, 110. Tout le monde est en train de tourner bullish sur le pétrole et comme par hasard, il n'avait plus à casser les résistances. Je ne dis pas qu'on est déjà arrivé au bout du cycle, hein, mais je pense que le pétrole, c'est marrant, c'est quand tout le monde est chaud, il ne veut plus monter. Donc pour l'instant, on bloque un petit peu sur les 76,50. Je pense qu'on va réussir à les passer à un moment donné, mais le jour où on va les passer, puis le jour où on va monter à 80, 90, vous vous souviendrez de cette vidéo du 30 septembre 2021 et vous vous souviendrez qu'on va revenir nous dire « Ah, mais le pétrole à 90 $ !» C'est quand même vachement inflationniste. Hein. Eh ben oui, on sait que si du moment où on rentre en dessus d'un certain niveau sur le baril, ben forcément, ça va coûter plus cher. On ne roule pas tous en Tesla. Et puis encore, aujourd'hui, quand vous voyez le prix du kilowatt qui a augmenté aussi, finalement, faire le plein d'une Tesla, ça ne coûte pas moins cher. Et finalement, vous avez le pétrole qui s'équilibre avec le reste. Donc du coup, aujourd'hui, on a quand même peur un tout petit peu partout de ce genre de choses. Et moi, franchement, quand je regarde tout ça, comme disait l'autre, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Dans la vidéo d'hier, j'ai parlé des titres à dividendes, justement, et puis il y a quelqu'un qui me pose la question ce matin de me dire « Tu peux nous donner les titres, les 10 titres à dividendes que tu achèterais si tu devais gagner à l'euro-million. Si demain je devais acheter plusieurs titres à dividendes, évidemment, je taperais simplement, je ne veux pas vous donner des noms spécifiques. Enfin, si, je peux vous donner quelques noms, mais l'idée, c'est d'aller taper dans ce qu'on appelle les dividendes aristocrates. Finalement, les dividendes aristocrates, c'est quoi? C'est des titres qui sont dans une espèce de classement, c'est assez simple. Dividendes aristocrates, vous tapez dessus et vous verrez, il y a des listes en Europe, aux États-Unis. Donc après, c'est en fonction des monnaies dans lesquelles vous voulez être investi. Mais si vous regardez les dividendes aristocrates aux États-Unis, par exemple, eh bien, vous allez avoir des boîtes comme ABBV qui vont apparaître, comme Johnson & Johnson. Alors, c'est pas non plus des payeurs de dividendes où vous payez 25% de dividendes par année, hein, mais c'est plutôt du 3,5, 4, 5. Mais surtout, c'est ce que ce concept fait, c'est qu'ils analysent les dividendes. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui payent des dividendes depuis plus de 25 ans et qui n'ont jamais raté un paiement de dividendes. C'est des boîtes qui ont une croissance du dividende annualisé, parce que au-delà du rendement que le dividende vous offre, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir depuis combien de temps le rendement il augmente chaque année. Parce que si chaque année on vous augmente le dividende de 2%, quand vous mettez tout ça ensemble sur les années, le résultat est quand même super intéressant aussi. Donc voilà, aux États-Unis, moi je regarde toujours des boîtes, je vous l'ai dit, ABBV, vous avez aussi Johnson & Johnson, vous avez aussi deux ou trois téléphoniques, boîtes de téléphonie qui sont pas mal. Moi j'aime bien Verizon qui paye bien des dividendes, c'est stable. Le titre ne fait pas grand-chose, mais Verizon paye des dividendes. En Europe, vous avez les assurances qui payent des dividendes plus ou moins de manière régulière. Et puis après, vous avez toujours l'idole des jeunes, Coca-Cola. Quoi que vous fassiez, ils paieront toujours un dividende et leur dividende augmente aussi régulièrement. Donc quand vous allez un peu pêcher dans ces dividendes aristocrates, vous pouvez faire un peu votre marché et vous verrez qu'il y a plusieurs sociétés. Après, ça va aussi au feeling, celles qui vous conviennent le mieux. Et vous verrez des fois, les rendements sont relativement faibles, mais les croissances régulières annualisées depuis 10 ans sont aussi super intéressantes. Donc, il faut un peu chercher dans tout ça. Mais moi, si j'en prenais deux aux États-Unis, eh bien, aujourd'hui, ce serait ABBV et Johnson & Johnson. Voilà, nous sommes donc le 30 septembre. Le mois de septembre se termine. On a déjà fini le premier mois pourri de l'année. Alors, on l'a bien fini, hein, pourri, parce que c'est pas non plus un crash, mais quand même, les performances mensuelles sont pas terribles par rapport à ce qu'on nous avait habitué depuis le début de l'année, en tout cas, puisque au mois d'août, à la fin du mois d'août, on était à pratiquement 56 records battus sur le S&P 500. Moi, j'avais dit que je me teindrais les cheveux en orange si jamais on faisait les 100 records cette année. Je crois que là, je suis tranquille, ça devrait pas trop se produire. Surtout avec l'arrivée du mois d'octobre qui a l'air d'être aussi compliqué que le mois de septembre. Donc voilà, surveillez ce mois d'octobre. Il y aura aussi pas mal de choses intéressantes. Puis n'oublions pas non plus que, puisque au cas où on s'ennuie entre Powell, la Chine, le plafond de la dette, eh bien, à partir de dans 10 jours, on a les publications trimestrielles. Voilà, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, si ce n'est point encore fait. Et puis, likez cette vidéo. Revenez demain. Demain, on sera en octobre et tout devrait changer. Alors, j'espère que d'ici là, il ne va pas commencer à neiger. Mais au moins, vous avez vu encore un peu de soleil là dehors, puisque c'est peut-être un des derniers rayons de soleil, un des derniers levers de soleil de cette année. Passez une très très bonne journée et puis on se retrouve demain. Bye bye.